Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 9 juin 1994.
Commencer. Est-ce que c'est bon de s'imaginer des fleurs quand on n'en a pas? J'aimerais tellement avoir une petite fleur là devant moi. Au début du printemps. Là, je m'imagine ce que c'est. Parce que il n'y en a pas. Là, s'il n'y en a pas, vous pouvez pas la voir. Mais vous pouvez l'imaginer. L'imagination remplace les sensations. C'est pas tout à fait la même chose. Les sensations me donnent contact avec le réel. Bien que la sensation implique l'intentionnalité. Mais cependant, contact avec le réel. Tandis que l'imagination, aucun contact avec le réel. De sorte que quand vous imaginez avoir une petite fleur à côté de vous, ou en face une petite statue de la Vierge Marie, c'est l'imagination. Et si vous cultivez cette imagination, petit à petit vous êtes enveloppé de cette imagination. Vous allez prendre votre petit déjeuner tout à l'heure, le cours entre deux. Vous pouvez très bien passer votre cours en disant « Je vais prendre mon petit déjeuner. » Vous imaginez, et vous n'êtes pas du tout présent. Certaines personnes, ça arrive aujourd'hui, sont tellement éduquées du côté imaginatif qu'elles n'arrivent plus à toucher le réel. La méthode Vitose, c'est pour rappeler les sensations et quitter l'imaginaire. Avoir contact avec le sol, pieds nus. Tout ça, vous meurtez pieds nus pour réparer ce non-contact avec le sol. Parce que quand même, le pied, c'est le toucher, et c'est le toucher fondamental. La terre vient au secours de la femme. Donc des pieds nus pour remettre dans le réalisme du sol, du chaud et du froid. C'est très vrai, les gars, regardez dans votre journée combien l'imaginaire constamment empêche le contact direct. Il n'y a rien de plus fatigant que l'imaginaire. Les gens qui, vous voyez, les gens qui vivent dans l'imaginaire sont toujours fatigués. Et la fatigue provient de là. Tu vois. On fatigue les gens parce que là, ils ne savent plus dormir. C'est curieux. C'est très élémentaire ces choses-là, mais c'est très important. Retrouver le sens du réel, c'est la qualité. C'est par la qualité que vous retrouvez le sens du réel. Les qualités sensibles, les qualités propres, les sensibles propres sont les premières qualités. Et le toucher. On a fait des expériences très curieuses au Canada là-dessus. Savoir combien de temps on pouvait être enfermé dans une petite cage. Vous n'avez aucun toucher. On en a toujours, hein, parce qu'on faudrait supprimer le corps. Mais on peut abstraire combien de temps on peut rester sans perdre presque la tête. Coupé de tout contact réel. Alors il paraît que la femme résiste plus longtemps que l'homme. C'est très curieux, tu vois, parce que c'est l'imaginaire qui l'emporte plus facilement et qui le maintient plus facilement dans une immanence imaginaire. Ce qui est sûr, c'est que le réalisme dépend des qualités. Alors ça, c'est très très important, vous voyez, puisque le réalisme, c'est l'être existant. L'être existant le conduit à la substance. Et donc, on a besoin d'un plus petit que soi. C'est les sensations propres, qui me permettent le jugement d'existence. Si vous êtes coupé des sensations propres, vous êtes coupé du jugement d'existence. Dans l'imaginaire, vous n'avez pas de jugement d'existence, c'est pour ça que c'est si fatigant. Les gens qui sont dans l'imaginaire, c'est une fatigue. Ah, ce que c'est fatigant. Et ils se fatiguent eux-mêmes. Ils n'arrivent plus. Le repos, pourquoi une grande promenade. visage. C'est que celui-là, on est habitué à le voir. Là, on ne le voit plus. On ne le regarde plus, à nouveau. Dès que vous êtes en face de quelque chose, ah, tiens, c'est étonnant, merveilleux. C'est pour ça que les voyages forment la jeunesse, maintiennent le réaliste, le réalisme. Ça, c'est très, très important de comprendre le rôle de la qualité pour rester dans le réalisme. Donc, qualité première, fondamentale, qualité de la qualité, l'habitude de sagesse. Mais c'est toujours la qualité. Qualité sensible qui me donne le réalisme du monde physique. Pues première chose qui est à faire, c'est de redécouvrir la qualité. Au point de vue génétique, au point de vue pédagogique. Tant que vous n'aurez pas redécouvert la qualité, vous ne pourrez pas découvrir la substance. Alors c'est peut-être comme ça qu'il faudrait faire. Alors, vous voyez, et c'est intéressant ça, parce que la qualité, je dirais, on peut la redécouvrir. Vous pouvez redécouvrir la qualité au niveau de vos sensations. Toucher, regard. Vous pouvez redécouvrir la qualité l'au-delà de l'imaginaire. Vous pouvez redécouvrir la qualité au plus intime de votre conscience. Connais-toi toi-même. Le propre de l'habitus, c'est de donner cette connaissance de soi. Je suis. Et parce que normalement, la puissance est faite pour connaître les réalités qui sont en dehors de nous. Connaître notre corps, connaître le corps des autres. Tandis que là, je suis l'habitus de sagesse qui me donne cette conscience profonde de ce que je suis. Alors, il me semble bien qu'on peut dire que les qualités sont pour ma connaissance le premier moment où je dépasse le conditionnement quantitatif de mon corps. Parce que mon corps me conditionne terriblement. Et mon corps me conditionne en premier lieu du côté quantitatif, pas du côté qualitatif. Mais du côté quantitatif, je suis conditionné par mon corps. Et ce conditionnement est tellement fort que facilement je reste dedans. Et je n'arrive pas à le dépasser pour voir l'aspect qualitatif, l'aspect de la qualité. La qualité, toute simple, du rouge, de la fleur. La qualité, toute simple, de la lumière. Efforcez-vous de regarder la lumière. Efforcez-vous de voir la différence de la lumière le matin et du soleil. La lumière aux doigts de rose, comme dit Homère. Efforcez-vous de regarder les couchers de soleil pour comprendre ce que c'est que la lumière. Ça ne réalise. Efforcez-vous de comprendre ce qu'est cette conscience interne de la connaissance. Je connais, je suis. Je me connais, je suis. Mais ce sont ces expériences, les deux ultimes, qui me font toucher les deux qualités extrêmes et qui me permettent de dépasser le conditionnement quantitatif. Quand je touche la lumière en la voyant, je suis au-delà de la quantité. La lumière est indivisible. Je ne peux pas définir la lumière. Elle est indivisible. dire, c'est que la qualité apparaît comme la détermination ultime, qui, d'une certaine manière, est déjà quelque chose d'au-delà de la détermination. C'est quelque chose d'ultime au-delà de la détermination. Pourquoi ? Parce que c'est une détermination qualitative, ordonnée à quelque chose qui me dépasse. Ordonnée à l'acte. C'est très curieux comment la qualité me permet de passer du domaine de la forme. Sont des formes. Il y a dans la juste dire, parce que par l'habitude de sagesse, je peux m'orienter vers Dieu, je peux atteindre Dieu dans ma connaissance, l'adorer et le contempler. Il y a donc quelque chose de très très particulier dans la qualité, ce dépassement de la forme. Quelque chose qui... Il m'est donné. C'est un donné. L'habitus de sagesse, il est acquis. Alors voilà pourquoi la qualité, je l'aime tant. Parce que la qualité, c'est l'être que j'acquiers. On pourrait dire, vous voyez, que c'est le plus être. Une profondeur que je n'atteindrai pas autrement. Et donc toute ma vie est qualifiée et toute ma vie a une profondeur qu'elle n'aurait pas autrement. C'est donc bien l'être qui est atteint. Mais une modalité de l'être, pas l'être dans ce qu'il a. Je saisis la qualité. Je la saisis quantitativement. Donc, je la saisis quantitativement. Donc, je l'acquiers. Et en l'acquérant, je sais que je touche ce qui est ultime dans mon acquisition. Et je suis donc à la frontière de ce qui est mien. L'habitude de sagesse augmente votre autonomie. Et c'est même par l'habitude de sagesse que vous acquérez la plus grande autonomie. Et en même temps que vous voyez par là que vous touchez la plus grande dépendance. C'est ça qui est tout à fait particulier dans la qualité. Vous voyez, j'allais presque dire, c'est par la qualité que je comprends le lien entre l'être et l'anthropologie, c'est ce qui est mien. Je suis un être humain. Et l'être en moi, c'est moi. Mais c'est vrai, l'être en moi, c'est moi. C'est mon être. Et comment pouvez-vous dire que c'est votre être, alors que l'être, vous le recevez gratuitement. C'est pas vous. À côté de vous, vous avez quelqu'un qui existe aussi. L'être. Je voudrais être l'être parfait. sens, parce que mon être, en réalité, avant d'être mon être, c'est l'être de celui qui m'a créé. Mon être n'est pas mon être. Il est plus l'être de celui qui m'a créé comme mon être. C'est donc bien la qualité, le caractère particulier de l'être qui peut être mien. Un tout petit peu ce problème à propos du je suis. Et je vous avais dit, dans le je suis, on fait l'expérience de l'être intime. À la différence de ceci est, c'est l'anonymat. Toutes les réalités qui sont dans moi, elles existent. Je suis. Je suis seul à pouvoir dire ça. C'est l'intimité de l'être. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Je saisis l'être de l'intérieur. Et donc je saisis qualitativement. Et saisir l'être qualitativement, c'est énorme. Parce que ça va contre tout l'anonymat de l'universel. C'est très ennuyeux, l'être anonyme. Et quand je reste en l'être anonyme, je risque toujours de glisser vers la logique. Pourquoi quelqu'un comme Heidegger est tellement en opposition vis-à-vis de l'être anonyme? Le « on », il rejette. Parce que je crois, alors là, qu'il n'a jamais saisi l'être au-delà de mon être. Philosophie de la qualité et l'identification de l'être et de la qualité dans le je suis. Et je crois qu'à ce point de vue-là, c'est exactement la même position que Platon, à la différence que Platon c'est avant Jésus-Christ, Heidegger après. Mais c'est très important à comprendre ça. Pourquoi Heidegger a été tenté terriblement par Luther. C'est vrai, ceux qui connaissent bien Heidegger, il était catholique de naissance, c'est-à-dire qu'il avait été baptisé catholique. Et puis, il a tourné vers Luther. Et il n'est pas resté. Il est mort dans l'église catholique. C'est parce que, de fait, sa philosophie est une philosophie de la qualité, de la sagesse. Ça fait comprendre une certaine noblesse, mais ça fait comprendre aussi une terrible limite. Alors, c'est là où on pourrait voir la différence entre Hegel et Heidegger. Hegel a voulu dépasser la qualité. Il atteint vraiment l'être. Et l'a-t-il atteint? Est-il lui aussi resté dans la qualité? Ça, c'est une question très importante qu'on doit se poser. Alors, je crois que Heidegger reste dans la qualité, dans son aspect de noblesse de la forme. Hegel saisit plus le dynamisme interne de la qualité. de la qualité. Et je ne crois pas qu'il dépasse sa qualité. Pour saisir, ceci est. Le « je suis » demande d'être dépassé dans ceci est pour atteindre vraiment l'être. Et si le « je suis »
qualitatif.
Vous n'êtes pas trop Et c'est pour ça qu'un artiste ne peut pas normalement rester dans le domaine de la science. Ça l'agace. Il veut entrer dans le domaine de la qualité poétique. Mais la poésie n'est pas l'être. La qualité poétique n'est pas l'être. Ça reste la qualité. L'inspiration poétique reste au niveau qualitatif. Il reste au niveau, justement, de la qualité. Ne saisis pas plus. Pas au-dessus. Alors, il faut être tout proche de la frontière. C'est l'avantage. Vous savez, vous êtes un peu comme Moïse. son intelligence. Et vous voyez, c'est très curieux que Heidegger considère que le sommet de toute la métaphysique, c'est l'entelecheia, chez Aristote. Il ne dit pas energeia. Energeia, c'est l'acte de celui qui me finalise. Tandis que entelecheia, c'est moi saisissant, étant saisi par celui qui me finalise. Et c'est moi. C'est moi demeurant dans ma fin. Et quand je suis demeurant dans ma fin, je suis parfaitement qualifié. Puisque je suis demeurant dans ma fin. Et la contemplation n'est pas d'être demeurant dans ma fin. La contemplation, c'est d'être tout entier tourné vers ma fin. Vous voyez, celui qui, en contemplant, se tape le pouls. C'est pas mal, hein, aujourd'hui, j'ai rêvé une bonne contemplation. Il ne contemple plus. Dès que vous vous tâtez le pouls en contemplant, vous ne contemplez plus. Et vous aimez mieux le résultat de la contemplation qui vous qualifie que la contemplation elle-même, dans ce qu'elle a de plus vrai, qui est de regarder celui qui me finalise. Vous voyez, l'aspect objectif et subjectif de la contemplation. L'aspect objectif de la contemplation, c'est de regarder celui qui me finalise. Or, celui qui me finalise ne peut être que Dieu. Même si, de fait, je l'atteins très mal, pauvrement, c'est quand même lui qui m'intéresse. Tandis qu'au contraire, si je ne regarde que la noblesse de ma contemplation, la noblesse de mon être contemplant, je regarde entelecheia, je me regarde contemplant, et me regarder contemplant, ce n'est plus contempler. Et ça explique, voyez, comment on se lasse de la contemplation. Parce que quand vous vous regardez contemplant, c'est jamais très fameux. Votre contemplation est très pauvre par rapport à vous. Elle est très riche par rapport à celui que vous contemplez. Si donc vous vous regardez contemplant, ce ne sera jamais très fameux. Et au bout d'un certain temps, vous direz, oh, je ne suis pas fait pour ça. Et vous aimerez mieux construire. Vous aimerez mieux travailler. Vous aimerez mieux réaliser certaines choses plutôt que de contempler. Vous voyez, c'est la terrible contemplation, c'est la terrible tentation, ça. Et la qualité peut être pour moi constamment objet de tentation à cause de cette deux aspects qu'elle implique. L'habitus de sagesse, normalement, est fait pour que je contemple. C'est l'utilisation vraie de l'habitus de sagesse. Mais je peux très bien utiliser l'habitus de sagesse pour m'enorgueillir. Pour faire le pan, la roue du pan. J'ai l'habitus de sagesse, admirable. Mon intelligence est parfaitement ordonnée. Je peux saisir tout. Donc c'est la croissance parfaite de mon intelligence que je contemple et que je regarde. Et cette croissance parfaite de mon intelligence que je contemple et que je regarde, c'est bien la qualité de sagesse. Mais ce n'est pas la qualité de sagesse en vue de quoi elle existe. C'est la qualité de sagesse qui existe pour moi. contempler celui qui est, pour contempler celui qui est le seul qui donne la finalité. Oui, c'est cela qui me semble très important au plan métaphysique à saisir. À travailler ce qu'est l'habitus de sagesse pour mieux saisir comment vous avez ce double regard sur l'habitus de sagesse. Et pour justement avoir ce double regard de l'habitus de sagesse, il ne faut pas rester dans la philosophie de la qualité. Il faut la dépasser pour saisir la philosophie de l'acte. Et c'est en ce sens-là que l'habitus de sagesse m'oblige d'entrer dans la métaphysique de l'acte pour corriger cette tentation permanente d'être heureux, d'avoir l'habitus de sagesse et d'avoir une grande noblesse de l'intelligence et de pouvoir tout ordonner, toutes les réalités, toute la connaissance. C'est quand même très grand ça. C'est très grand, mais c'est terrible. Je demeure dans l'immanence de mon intelligence. Et demeurant dans mon immanence de mon intelligence, je ne